Talmudique. Voici la rentrée. Oui, pour des millions de parents, d'enfants, d'adolescents et de professeurs, le grand événement de la semaine qui commence demain est la rentrée scolaire. Une occasion de se pencher sur le sens de ce mot scolaire qui nous vient du grec et du latin et qui nous réserve de belles surprises. En effet, le grec scolé signifie la trêve, un moment de relâche, le repos et le loisir, mot que l'on retrouve dans les expressions grecques qui signifient prendre du loisir, se donner du loisir. Pour le dire de manière un peu paradoxale, scolé, d'où dérive le mot école, serait le temps des vacances. À comprendre, le privilège de l'homme libre, chez les Grecs, qui contrairement à l'esclave, pouvait s'occuper d'autre chose que le travail et avoir ainsi le temps, la tranquillité, la sérénité, le loisir de se consacrer à des occupations studieuses, à des entretiens savants, aux études et à la méditation, en un mot, au loisir de l'esprit. D'où par la suite le sens de scolé comme lieu de l'étude, à savoir l'école. Lieu où l'on pratiquait les humanitas, c'est-à-dire un lieu où l'on apprenait à devenir un homme accompli en pratiquant les disciplines des humanités, histoire, rhétorique, politique, éthique. Ce mot « humanité » nous invite à nous poser quelques questions, sans doute trop sérieuses pour une rentrée, mais sans doute aussi trop urgentes pour ne pas les poser dans le temps de notre quotidien qui se métamorphose à une vitesse surprenante. Mains agrippées, oreilles branchées, yeux rivés sur des pages qui défilent frénétiquement au rythme d'acrobaties digitales spectaculaires, sans parler en cette rentrée des nombreux lycées qui deviennent 100% numériques, il suffit de franchir la porte d'une rame de métro pour comprendre que nous sommes définitivement entrés dans une ère nouvelle. Quelle transmission ? Quelle idée de l'humain les enfants de nos écoles vont découvrir et vont leur permettre de s'accomplir ? Quelle idée de l'humain et de son rapport à la Terre, à l'heure où les projets des terriens deviennent extraterrestres ? Quelle démocratie construire dans ce temps politique où s'installe une fatigue d'être libre, selon l'expression de Jean-Michel Besnier, inspiré de Tocqueville ? Quelles idées de l'humain pouvons-nous construire dans ce temps de bascule où l'humain et l'humanisme s'entichent et s'entachent de poste et de transe ? Que signifient, en effet, ces mots qui sont bien plus qu'une mode, post-humanisme et transhumanisme ? Signe-t-il la fin de l'humanisme ? Un mot qu'il faut d'ailleurs lui-même interroger. Quels outils philosophiques avons-nous pour penser ces révolutions, à la fois technologiques, mais aussi cognitives et psychologiques ? Et qu'en est-il de toutes ces questions si non seulement nous les posons dans le cadre de la philosophie générale, mais aussi à l'aune des textes de la tradition hébraïque et de l'exégèse des maîtres de la pensée juive à travers les siècles ? C'est par l'ensemble de ces questions que Talmudique fait sa rentrée en ayant le plaisir de partager ses interrogations en dialogue et en convergence avec la dernière livraison de la revue L'Éclaireur qui souffle sa première bougie et qui consacre son numéro au retour du golem, un regard juif sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Jérémy Haddad, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wagnin.
Jérémy Haddad, vous êtes président des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, les EI, selon leur dénomination traditionnelle, et vous êtes aussi directeur de publication de la revue L'Éclaireur. Nous vous avions reçu avec Karen Alali pour le numéro 1, et vous fêtez les 1 an de cette revue avec ce numéro 5. Une belle et grande réussite, car L'Éclaireur s'est imposé dans le paysage intellectuel et le monde des revues de façon tout à fait exceptionnelle. Le transhumanisme est un sujet qui, il y a 20 ans, circulait très discrètement et avec beaucoup de circonspection, même dans les milieux professionnels. Pourquoi le choix de ce sujet pour cet anniversaire et cette rentrée scolaire, Jérémy Haddad ?
Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette belle introduction de rentrée. Et si vous me le permettez, d'ailleurs, je voudrais faire une petite liaison entre scolé et l'étymologie dont provient ce mot grec, puisque selon Patrick Jean-Baptiste, il proviendrait d'un mot hébreu qui signifie askala, qui est le mot askala, qui signifie instruction, qui signifie culture, et qui vient lui-même de la racine sechel, qui veut dire l'intellect ou l'intelligence. Donc on est vraiment en plein dans le sujet et je vous en remercie. Alors pour répondre à votre question, pour rappeler un petit peu la vocation de L'Éclaireur, L'Éclaireur est une revue qui a vocation à aborder des thèmes d'actualité, des thèmes brûlants, mais au regard de la tradition juive de façon extrêmement large, c'est-à-dire à la fois l'étude des textes juifs, à la fois la pensée juive, mais à la fois productions littéraires, cinématographiques, de fiction qui ont été produites en référence à une certaine forme de tradition juive, avec de l'actualité sur ce qui se passe, ce qui peut se passer en Israël. Et donc sur ces sujets de transhumanisme, d'intelligence artificielle, on s'est dit c'est un sujet qu'il faut absolument aborder. Pourquoi ? D'abord, on voit bien qu'il y a une profusion de production en ce moment. Vous connaissez les livres de Yuval Noah Harari sur Homo Deus. Luc Ferry y est allé de son propre livre. Il a même franchi les portes du Collège de France, puisqu'il est désormais une chaire d'intelligence artificielle qui est occupée par Yann Lequin, qui travaille chez Facebook en matière d'intelligence artificielle. Et puis moi-même, dans le cadre professionnel, je conseille des entreprises justement sur l'impact de ces nouvelles technologies. Et depuis quelques années, j'y reviendrai, il y a une accélération absolument prodigieuse de ces technologies-là qui ont des impacts inconnus jusqu'à présent dans la société. Et on s'est dit qu'il fallait aborder ça. Et on a été d'autant plus agréablement surpris que la tradition juive a les outils et a déjà, quelque part, d'une certaine façon, travaillé ce sujet-là en avance de phase.
Des impacts dans la société, vous dites par exemple ?
Alors, par exemple, c'est très simple. Lorsque vous avez, ne serait-ce que d'un point de vue social, vous avez aujourd'hui un certain nombre de métiers qui sont le lot de millions, voire de milliards de personnes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle ou avec la robotique, on se retrouve avec des métiers qui pourraient disparaître dans un temps extrêmement court. Alors, ce sont des phénomènes qu'on a connus, hein. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus trop de tireurs de calèches, sauf pour les touristes. Ils ont été remplacés par la voiture et les transports en commun. La différence, c'est que là, aujourd'hui, ça a une ampleur beaucoup plus importante et avec une vitesse qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu auparavant. Or, l'homme, pour le coup, est limité. Il a une durée de vie qui est la sienne. Quand on travaille à 30 ans, on ne peut pas se voir supprimer son travail du jour au lendemain. Et ça, ça a des impacts sociaux, mais ça a des impacts aussi sur la façon dont l'homme se perçoit lui-même. Et ça, c'est aussi ce qu'on cherche à aborder dans ce numéro de l'éclaireur.
J'ai découvert que Enosh, l'humain et l'humanité en hébreu, est exactement de la même racine que le mot Anush, qui signifie la douleur physique ou psychique, qu'il ressent pour lui-même ou que l'homme partage avec autrui par empathie et qu'il pourrait causer à autrui ou éviter justement de lui causer. Que vous inspirent ces remarques et n'est-ce pas là une façon de différencier la nature humaine de celle de la machine, Jérémy Haddad ?
Il faut redire peut-être pour nos auditeurs comment fonctionne l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle, la majorité des applications aujourd'hui sont bâties à partir de machine learning, c'est-à-dire d'apprentissage. On ne décrit pas, on ne donne pas d'instructions à la machine, mais on va lui donner en fait un certain nombre de cas, des millions, des milliards de cas, et à partir de ces cas-là, la machine va apprendre toute seule. Et à partir de cet apprentissage, elle va ensuite reproduire un certain nombre de comportements toute seule, de façon automatique, sans l'humain. Et le problème, c'est qu'il va apprendre à partir de données humaines. Et donc si ces données humaines sont biaisées avec des inclinations racistes, des inclinations homophobes, des inclinations sexistes, de façon absolument évidente, la machine derrière va reproduire ces éléments-là. Et on en a eu des exemples d'ailleurs, hein, Microsoft a dû enlever du marché une machine d'intelligence artificielle à cause de ces aspects-là. Et je crois que c'est un des aspects auxquels il faut faire très attention, c'est comment est-ce qu'on utilise ces technologies, et on le voit bien dans la façon dont certains commentateurs parlent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils disent c'est l'arbre de la connaissance, point, du bien et du mal. C'est-à-dire à partir de la connaissance, qui elle est neutre, vous pourrez faire à la fois du bien et à la fois du mal, et c'est à vous de le choisir.
Là, c'est l'interprétation d'Henri Atlan dans l'interview qu'il donne dans la revue.
Tout à fait.
Dans un article qui s'appelle précisément « L'arbre de la connaissance ». Du bien et du mal. Pour revenir à cette étymologie de Enosh humain et Anush douleur, est-ce que dans la programmation de ces machines, on peut aussi programmer des machines qui ressentent la douleur ?
Alors en tout cas, on peut. Ça, c'est un débat d'experts. Et d'ailleurs, on a justement comme ambition dans l'éclaireur de faire appel à des experts pour nous dire ce qui était faisable, pas faisable, parce qu'on est aussi dans un monde de fantasmes. Hein. Vous savez, on promet des choses pour des raisons bassement mercantiles. La plupart des experts nous disent qu'ils pourront probablement essayer de ressembler à de la douleur, d'imiter la douleur, mais ils ne pourront pas ressentir eux-mêmes de douleur. Puisque là, on a affaire à une reproduction de la conscience, et ça, pour la majorité des experts aujourd'hui, une conscience artificielle, elle n'existe pas, et pour certains, elle n'existera jamais, et même pour ceux qui disent que ça existe, ça n'existera que dans plusieurs centaines d'années.
Aujourd'hui, on parle de transhumanisme et de post-humanisme. Quelle différence faut-il faire entre ces deux termes, Jérémy Haddad? Comment les différents contributeurs de ce numéro ont-ils abordé cette différence?
Alors, vous avez raison, il faut faire cette distinction, même si elle n'est pas encore, je crois, complètement élucidée d'un point de vue académique. Mais je dirais la chose suivante. Le transhumanisme, c'est aller au-delà de l'humain, en tout cas augmenter l'humain. Augmenter l'humain à partir des technologies pour donner à l'humain de nouvelles capacités, ouvrir des possibles qui vont à l'encontre du schéma proprement naturel. Et si je vais à l'extrême et que je donne quelques exemples, c'est des prothèses technologiques qu'on intègre directement dans le corps humain, c'est l'utérus artificiel qui pourrait permettre de donner naissance à des enfants sans que la femme le porte, c'est le clonage reproductif. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font partie de ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est un humain augmenté, mais on reste humain et on trans, c'est-à-dire on va vers, pour le coup, un post-humanisme. Alors là, c'est complètement différent, parce que le post-humanisme, c'est un endroit où, justement, l'humain n'est plus l'humain. Et on a affaire à autre chose.
Une des expressions qui revient le plus souvent dans les réflexions des auteurs qui réfléchissent sur le trans et le post-humanisme, et vous-même à l'instant, c'est celle de l'homme augmenté ou de l'humanité élargie. Cette augmentation n'est-elle pas le propre de l'intelligence humaine qui, depuis des milliers d'années, a cherché à augmenter ses capacités de maîtrise sur la nature et sur lui-même par une suite d'inventions qui va de l'outil préhistorique au pacemaker, en passant par l'invention des premiers vêtements, des lunettes, de la machine à laver, de la machine à vapeur. Dès lors, quelle différence entre l'homme que nous sommes devenus à travers les âges et l'homme augmenté? Pourquoi parler de transhumanisme?
Alors vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, Henri Atlan le dit très bien dans L'Éclaireur. Dès que vous portez des lunettes ou des lentilles, vous êtes déjà un homme augmenté. Vous permettez à des hommes et des femmes de pouvoir continuer à lire après 50 ans, ce qui, d'après la nature, n'est pas possible. Donc, quelle différence? Et là, je crois qu'il faut revenir à ce que je raconte dans mon édito. Je l'ai dit, ma vie professionnelle me conduit un peu partout. Et donc, j'étais aux États-Unis et j'ai assisté à une conférence de Peter Diamandis. Et Peter Diamandis, c'était un des cofondateurs de l'Université de la Singularité, avec Ray Kurzweil, qui est maintenant chez Google, qui est le grand héros du transhumanisme et même du post-humanisme. Et Peter Diamandis donnait la métaphore suivante. Vous connaissez la fameuse légende de l'inventeur du jeu d'échecs. Et lorsque le sultan à qui il avait montré son jeu a voulu le récompenser, il lui a demandé quelle récompense veux-tu ? Alors, il lui dit, c'est très simple, prends un échiquier de 64 cases, et puis sur la première case, tu vas mettre un grain de blé ou un grain de riz, sur la deuxième, tu vas en mettre deux, puis la troisième, quatre, et puis ensuite huit, et ainsi de suite jusqu'à 64. Alors au début, le sultan dit oui, pas de problème. Et puis quand il fait le calcul, il se rend compte que c'est absolument impossible. Et que encore aujourd'hui, en 2019, ça voudrait dire de mettre sur un échiquier la totalité de la production de riz produite depuis le début de l'humanité, et encore bien, bien au-delà. Et ce que Peter Diamandis dit, c'est faites cet exercice-là sur la puissance des machines et la puissance des transistors. On a créé les transistors en 1956 et la loi de Moore, en fait, dit exactement ce que dit l'échiquier, c'est-à-dire que tous les 18 mois, la capacité double. Et cette loi n'a pas encore été démentie. C'est une sorte de conjecture qui est vraie. Et ça veut dire que vous arrivez à un moment donné dans l'échiquier, c'est-à-dire à peu près au milieu de l'échiquier, vous arrivez à des volumes absolument exponentiels. Et quand il part de 1956, il arrive à peu près dans les années 2010. Et là, sa position consiste à dire qu'en 2010, là, on va arriver à un tournant technologique absolument monstrueux où les capacités technologiques vont s'accélérer de façon exponentielle. Et il faut bien dire que on le ressent un petit peu. C'est-à-dire que quand on parle à des assistants vocaux, des assistants virtuels, chose qui ne marchait absolument pas il y a encore 5 ou 6 ans, là, aujourd'hui, ça marche. Les voitures autonomes, aujourd'hui, ça commence à marcher. Il y a plein de choses qui étaient complètement impossibles il y a encore une dizaine d'années qui aujourd'hui le deviennent. Et donc, ça veut dire qu'on a changé d'échelle. On a changé d'échelle, on a changé de dimension. On est sur une accélération qui n'a plus rien à voir avec l'invention de la lunette ou même du réfrigérateur.
Thank you. sommes en train d'entendre la musique du Golem, un film de Paul Wegener daté de 1920 avec une musique de Hans Landsberger, d'après le livre de Gustave Meyrinck de 1915, un livre qui reprend une légende attribuée au Maharal de Prague, un célébrissime rabbin du XVIe siècle, qui créa une sorte d'imposant robot, un paradigme de notre modernité, un robot qui s'appelle le Golem, une légende à la fois très ancienne et très moderne. Pourquoi avoir intitulé ce numéro « Le retour du golem ?» J'ai toujours été attentif à cet enseignement du Midrash Rabba qui dit qu'en hébreu, le mot « Adam », l'homme, possède une anagramme « Méod » qui signifie la force, le pouvoir de faire plus et mieux et encore plus et en plus grand nombre. On a l'impression qu'on a une sorte de miniature de ce que vous avez dit précédemment. On a l'impression que l'homme augmenté est inscrit dans l'homme biblique ontologiquement. Jérémy Haddad.
Absolument, ça c'est absolument clair. Il y a une dimension technophile, mais surtout une volonté de dire à l'homme qu'il est le partenaire de Dieu dans la création. Et ça, on le voit à travers un certain nombre de commentaires extrêmement connus. Hein. Vous savez que dans la Genèse, lorsque Dieu crée le monde et puis qu'il se repose le septième jour, il est dit « Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière que lui, Dieu, avait créée pour faire ». Asher bara Elohim, la asot. Et même en français, ce pourfaire, il est complètement superflu. On ne voit pas très bien ce qu'il vient faire ici. Les commentateurs disent, c'est très simple, Dieu avait créé un monde, et désormais, il va laisser les hommes faire, et c'est lui, l'homme, qui va prendre la place de Dieu pour faire des choses. Donc ça, c'est absolument clair. L'homme doit faire, l'homme doit transformer le monde. Le rabbi de Kotz, qui est un rabbi chassidique, au moment où, pareil, la Genèse dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, lo tov eyot adam levado, il transforme un petit peu la lecture littérale et il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seulement un homme ». Et donc il faut que l'homme soit plus qu'un homme. Et donc on est bien effectivement dans le méode et dans l'accélération que vous avez envisagé ici. Et puis en termes de perception, il y a aussi une grosse différence avec la tradition grecque. Par exemple, la création du feu. Le feu, la découverte du feu, il y a un Midrash ou un Talmud, explique qu'en réalité le feu a été pensé par Dieu avant Shabbat, mais qu'il a été découvert par l'homme après Shabbat, et donc dans la continuité de la création divine. C'est très différent de l'invention du feu chez les Grecs, où Prométhée va voler ce feu, qu'il va payer évidemment très cher de sa personne ensuite. Et ça a des implications très fortes, parce que le mythe de Prométhée dit qu'il y a un risque, il y a une inquiétude concernant le progrès technologique, alors que pour la Torah, cette inquiétude-là n'est pas si forte que cela.
Alors le golem.
Le golem, c'est une figure évidemment très importante. Elle a été attribuée au Maharal de Prague, même si on sait que c'est une légende, postérieure de 200 ans à peu près au Maharal de Prague, qui justement, je crois, a été attribuée au Maharal de Prague, parce que le Maharal de Prague était une des figures de proue de la tradition juive, qui était la plus technophile et qui était la plus enclin à se dire « il faut transformer le monde hein. ». Le Maharal de Prague a vécu à Prague pendant la Renaissance, c'était un ami Tycho Brahe, le fameux astronome. Mais surtout, le golem, c'est une figure, en réalité, qui existe depuis beaucoup plus longtemps dans la tradition juive. Elle existe dans le Talmud, où on a des exemples de sages de la tradition qui construisent, qui savent construire des figures inanimées, qui ne sont pas douées de parole, mais qui peuvent vivre. Et ces créatures-là, elles ont un objet particulier, parce que, un, elles montrent d'abord qu'on peut créer des choses avec des lettres et des chiffres. Et ça, on retrouve ça de façon surprenante, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une suite de 1 et de 0, l'ADN étant lui-même aussi une suite de lettres et de nucléotides. La deuxième, c'est qu'elle pose des questions halakhiques très précises, c'est-à-dire que même si ça paraissait complètement farfelu, les sages se sont penchés sur les décisions législatives et légales auxquelles on pourrait penser lorsqu'on voit ces golems-là. Est-ce qu'ils doivent compter dans un minyan, c'est-à-dire une assemblée de 10 personnes nécessaires pour faire la prière? Est-ce qu'elles rendent impures de la même façon qu'un mort humain rend impur, etc., etc. Toutes ces questions ont été abordées et prennent un relief et une actualité particulière aujourd'hui lorsqu'on parle justement d'intelligence artificielle, lorsqu'on parle de transhumanisme et d'androïdes, qui est donc... Pour y travailler, on se réfère aux travaux antérieurs des sages de la tradition.
Ça fait penser aux lois de la robotique de Asimov, dont j'ai été très surpris de découvrir dans le numéro, dans un article, que Asimov, ce maître de la science-fiction, avait écrit deux livres de commentaires bibliques, un sur la Genèse et un autre sur l'Exode. Donc c'est absolument intéressant de voir ce lien. Mais la légende du golem a quelque chose de particulier, c'est que le Maharal aurait créé un robot, une créature artificielle, pour protéger les Juifs, pour rendre service, et tout à coup, selon la légende, la machine se serait retournée contre son créateur qui a dû enlever le logiciel, si on peut dire, puisqu'il avait écrit le mot « vérité » sur son front, « Emmet ». Et quand la machine s'est retournée contre son créateur, il a dû effacer la lettre « Aleph » pour qu'il reste les lettres « Mem » et « Tav » qui écrivent le mot « Met » qui veut dire « la mort ». Et la créature s'est effondrée. Oui, oui. C'est une façon de dire qu'il a enlevé le programme.
Absolument.
Je reviens à mon point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation, le retour du golem point d'interrogation et pas d'exclamation, Jérémy Hanal?
Parce qu'on est, pas sans savoir que, évidemment, cette accélération de la technologie, cette apparition de créatures qui potentiellement pourraient avoir une intelligence supérieure à celle de l'homme, pourrait un jour nous échapper. Évidemment, il faut savoir de quoi on parle. On ne parle pas d'une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire qui serait, comme dans Terminator, hein, complètement là pour exterminer les humains avec une conscience et une prise de responsabilité propre. Mais en revanche, déjà, avec des intelligences artificielles faibles, on pourrait imaginer que notre monde serait pris dans des algorithmes. On serait soumis à des algorithmes qui seraient en plus scientifiques et donc très difficilement réfutables. Et donc, pour le coup, qui nous échapperait?
Ce qui est le cas actuellement, presque.
Ce qui commence à être le cas. Ce qui commence à être le cas, aujourd'hui, avec le big data, on arrive effectivement à avoir des schémas prédictifs qui sont extrêmement, extrêmement puissants. Et donc, on sait très facilement aujourd'hui dire combien, par exemple, les gens vont consommer d'électricité quasiment au kilowattheure près. On le sait grâce à des algorithmes de machine learning. Et puis, tout dérive de cela. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a une faillibilité de ces algorithmes de machine learning, alors qu'il est possible qu'ils en aient, justement. Mais aujourd'hui, cette croyance en l'infaillibilité de ces algorithmes d'intelligence artificielle risque quelque part de soumettre l'humain à l'intelligence artificielle. Et donc, en cela, la question, c'est est-ce qu'on sera capable de maîtriser cette intelligence artificielle ou bien est-ce que, malgré tout, on sera encore capable, comme le Maharal de Prague, de débrancher le logiciel?
En lisant l'ensemble de la revue, on a l'impression, Jérémy Haddad, que la grande majorité des maîtres de la tradition sont technophiles. De Rabbi Akiva, dans son dialogue avec un Romain, jusqu'au Pirkei de Rabbi Eliezer, cité par le Rav Aviguès, qui rapporte que Dieu aurait été un homme qui aurait mangé de l'arbre de la connaissance et serait devenu Dieu, créant à son tour un homme, devenant à son tour un Dieu en mangeant à nouveau de l'arbre de la connaissance et ainsi de manière infinie. Comment comprenez-vous cette empathie particulièrement forte pour la technique de la part des maîtres de la tradition? Quelle métaphysique, en fait, sous-tend cette technophilie?
Alors,
Jérémy Haddad,
vous avez parlé de ce dialogue entre Rabbi Akiva et les Romains. Je pense qu'il est intéressant de le mentionner. C'est un dialogue entre les Romains et Rabbi Akiva. Les Romains essayant un peu de challenger Rabbi Akiva et de lui dire « Bon, attendez, cette circoncision, on comprend pas bien ce que vous voulez faire parce qu'en fait, vous circoncisez à 8 jours vos enfants, ce qui veut dire qu'en réalité, vous considérez que la nature telle que Dieu vous l'a donnée, donc l'enfant tel que Dieu vous l'a donné, n'est pas parfait. Et donc, vous êtes obligé de lui enlever quelque chose pour considérer qu'il est quelque part achevé. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela ?» Et donc, Rabbi Akiva répond de façon très astucieuse. Il apporte devant le Romain des grains de blé et puis des gâteaux. Et puis, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu préfères manger ?» Alors, bien évidemment, le Romain répond « Le gâteau. » Et donc, Rabbi Akiva lui montre qu'en réalité, Dieu veut cela. C'est-à-dire, ce n'est pas une possibilité que l'homme a de transformer le monde. C'est une volonté absolument claire et établie, comme on l'a dit tout à l'heure, de Dieu, d'associer l'homme à la création et à la transformation du monde, de la même façon que lorsqu'il a des grains de blé, l'homme va les transformer pour en obtenir des gâteaux. Donc ça, clairement, c'est inscrit, cette technophilie-là, elle est absolument inscrite. Là, il y a cette volonté de
vers le tikkun, on peut dire.
Exactement. Alors, le tikkun, c'est un mot qu'il faut traduire, c'est veut dire réparation en hébreu, et ce toujours selon Patrick Jean-Baptiste, cette étymologie pourrait donner pu donner naissance aussi au mot technique. C'est-à-dire que la technique est une façon, quelque part, de réparer le monde. Et donc, d'un certain point de vue, elle est positive.
Le mot grec techné viendrait du mot le taken, en hébreu, qui veut dire réparer.
Réparer, mettre de l'ordre, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que je crois qu'il faut revenir aussi à la tradition de renouvellement, de l'étude juive notamment. Pour un juif, un texte, il n'est jamais fermé, il n'est jamais donné complètement, il n'est jamais définitif. Et il y a toujours cet aspect extrêmement positif dans la tradition juive de chidouche, c'est-à-dire de renouvellement, où à chaque fois qu'on a un texte devant nous, on va peut-être le transformer, comme vous le faites très bien. Vous arrivez à associer un certain nombre de termes, à en tirer une nouvelle signification qui nous permet de l'intérioriser. Et en fait, il suffit de transposer cet exercice de lecture, de renouvellement systématique à tout simplement la recherche scientifique pour obtenir quelque part une bienveillance sur le renouvellement permanent, sur la capacité à inventer de nouvelles choses, que ce soit la physique quantique au début des années 20 ou bien aujourd'hui toutes les évolutions apportées par la Silicon Valley.
En maintenant toujours une éthique justement de la création, de la même façon que dans la lecture innovante dont vous parlez à l'instant, on a le droit de tout dire, sauf quelque chose qui peut porter préjudice et créer de la violence sur autrui. Je pense que la même limite éthique existe dans la recherche scientifique, c'est-à-dire on peut tout créer, tout produire, mais avec toujours cette vigilance que cela ne va pas produire de dégâts, de violence ou de destruction de l'homme.
Absolument, moi j'ai été très sensible pour poursuivre dans ce que vous dites. Sur ce que dit Eric Smilevitch dans un texte qui est peut-être un petit peu radical, mais en tout cas il explique que certes il y a une question des moyens, c'est-à-dire les moyens on peut travailler dessus autant qu'on veut, mais il ne faut pas oublier la question de la finalité. Et la finalité en hébreu se dit tachlit, et tachlit en hébreu ça veut dire à la fois la finalité mais aussi les limites. C'est-à-dire que dès qu'on met en place une finalité, dès qu'on réfléchit aux finalités, on va forcément se poser des limites. Et sur cette question du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les moyens, qui réussissent. Il faut aussi des gens qui travaillent sur l'éthique et sur les finalités, parce que de fait, ça va imposer des limites qui sont de fait absolument nécessaires.
Alors limites, il y en a une qui semble presque surgir d'elle-même, un des aspects du transhumanisme qui mène au post-humanisme, ou qui mènerait au post-humanisme, est le fait de se débarrasser de plus en plus du corps et de la dimension corporelle en général. Certains tenants du transhumanisme cherchent même à créer des hommes qui n'ont plus besoin de parler, mais simplement d'échanger par ondes télépathiques. Nous voilà bien loin du judaïsme et de sa vocation très charnelle en ce qui concerne la réalisation de l'humain. L'homme augmenté, élargi, soit, mais toujours dans un corps à qui incombent des mitzvot bien physiques et bien terriennes, même si l'homme réussit à coloniser Mars. N'y a-t-il pas ici une piste pour réfléchir sur les questions du clonage reproductif ou encore sur ce qu'Henri Atlan appelle l'utérus artificiel et auquel vous avez fait allusion? Et je pense ici à l'article de Bernard Marouani et à l'entretien justement de Henri Atlan qui se trouve dans le numéro. Jérémy Adam.
Alors vous avez raison, on est très loin du judaïsme, mais on n'est pas très loin en revanche du platonisme. Puisque Platon disait le corps c'est le tombeau de l'âme. Et quelque part, si on extrapole un petit peu Platon, si on pouvait se débarrasser du corps et n'être que dans les choses de l'esprit, ça irait très bien à Platon. C'est complètement différent dans le judaïsme, ne serait-ce que parce que l'homme, lorsqu'il est créé, il est créé certes à l'image de Dieu, mais il est aussi créé via un corps et avec une dimension sexuée. Zahar unekeva bara otam, masculin et féminin, il créa l'humain. L'homme est d'abord un corps, et c'est un corps sexué, et ça, le judaïsme n'est pas prêt à passer là-dessus. Ça, de façon absolument claire. C'est une distinction originaire et qui n'appartient pas à l'homme de défaire. Après, c'est vrai que c'est sur ces nouvelles questions de clonage reproductif et d'utérus artificiel, les sages de la tradition ne restent absolument pas inactifs et trouvent les ressources nécessaires pour travailler ce sujet. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ils ne sont absolument pas radicalement opposés au clonage reproductif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un clone, c'est d'abord et avant tout un corps. C'est un corps avec une individualité, avec une âme, avec un patrimoine génétique spécifique, avec une naissance via une mère qui accouche. Et donc, la dimension de corps se retrouve encore là. Et c'est aussi la possibilité pour des couples d'accomplir une mitzvah, un commandement, qui est le commandement d'avoir des enfants. Donc, de ce point de vue-là, les sages de la tradition ne sont pas du tout complètement horrifiés par cette histoire de clonage reproductif. Il peut y avoir d'autres considérations sociales, politiques, etc., qui feraient qu'on interdise. Mais en revanche, d'un point de vue purement halakhique, d'un point de vue purement légal, tant qu'on reste justement dans un corps, et un clone est encore un corps, il n'y a pas de problème.
D'où aussi l'autorisation de l'utérus artificiel pour Henri Atlan, par exemple.
Alors oui, alors l'utérus artificiel, c'est déjà un peu plus compliqué, parce que dans la loi juive, les règles de filiation, et notamment de filiation par rapport à la mère, c'est la mère qui porte l'enfant et qui accouche. Donc ça a des impacts déjà aujourd'hui sur la mère porteuse, puisque la mère, dans le judaïsme, est la mère qui accouche, et non pas la mère qui donne son patrimoine génétique. Et donc, dans le cadre de l'utérus artificiel, évidemment, là, les questions vont se poser. Qui est finalement la mère ? Néanmoins, selon Henri Atlan, ce n'est pas forcément infaisable. Et ça permettrait d'aller à l'encontre de la malédiction divine qui a voulu que justement Ève allait souffrir lors de l'accouchement. On sait bien que les Juifs n'ont eu aucun problème lors de l'apparition de la péridurale qui faisait disparaître en partie cette douleur-là. Il y a fort à parier qu'ils n'auront pas non plus de problème majeur avec l'utérus artificiel.
Merci Jérémy Haddad pour ces profonds éclairages sur ces questions complexes que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine, car le sujet est loin d'être épuisé. Entre-temps, je renvoie à ce beau numéro 5 de la revue L'Éclaireur, dont je rappelle le titre, Le retour du golem, point d'interrogation, un regard juif sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle, disponible à partir de...
Début septembre.
À partir de demain, donc. Mm-hmm. Merci encore, Jérémy Haddad. C'était Talmudique, une émission de Françoise Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Alain Joubert. Et à la réalisation, encore tout ensoleillé du soleil des vacances, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications concernant notre invité et la revue L'Éclaireur sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Tov, Leitraot, au revoir. Bon dimanche, bonne rentrée à tous et à la semaine prochaine.